Dans cette release de CPU, un sujet, un verbe, un complément d'objet direct et une réponse parfois physique. Nous enregistrons le second volet de la série Killed by App. J'espère que mes deux professeurs auront mis leur smartphone sur silencieux. Hein, pas de réponse vocale, merci. Allez, c'est parti.
CPU carré petit utile.
Bonjour Pia.
Salut.
J'espère que tu vas très bien. Bonjour Anthony.
Salut.
Ça y est, t'es revenu de Paris. T'en avais marre, Toulouse te manquait.
Je suis revenu pour toi.
Oh, c'est trop gentil, merci.
Je vais vous laisser.
Ah ouais. Et bonjour à toi, enfant du futur immédiat, toi qui découvres qu'il est toujours plus facile d'obtenir une réaction d'un ton ferme plutôt qu'avec un bête « s'il te plaît ». Il fut une époque où le summum de la science-fiction était un ordinateur qui répond de... comme une vraie intelligence artificielle avec une synthèse vocale parfaite, tel le modèle HAL 9000. Non, pardon. En fait, avant de parler de lui, il y avait Goldorak, où le célèbre robot de combat lançait sans mot dire des fonctions prononcées de la voix de Stentor du prince d'Alcor. Bon, en fait, le prince d'Alcor, bah, il hurlait littéralement les commandes, ce qui veut dire que soit l'isolation phonique des turboréacteurs au diesel laissait particulièrement à désirer, soit que la technologie alcorienne était particulièrement sourde.
Je disais particulièrement sourde!
Puis il y eut la première vision d'une maison domotique avec le film Electric Dreams, sorti en 1984, où un architecte achète un Mac, qui venait tout juste de sortir, pour son travail et tous les accessoires qui permettent à l'ordinateur de contrôler tout l'équipement électrique du foyer. Oui, l'architecte était à l'époque la seule profession qui puisse offrir ce genre de technologie, à part les milliardaires, mais eux, ils ont déjà du personnel de maison, et les serruriers de nuit, mais qui, eux, ne déclarent pas tout au fisc. Bien mal lui en a pris, car l'ordinateur atteint la conscience et tombe amoureux lui aussi de la belle voisine qui sait faire vibrer la corde sensible.
Je disais qu'elle est violoncelliste !
En fait, on oublie que la reconnaissance vocale est encore une fois une technologie assistive pour les personnes handicapées qui a bien vite été employée pour le grand public, comme la télécommande, l'ascenseur, la synthèse vocale et les écouteurs intra-auriculaires.
Je disais le sonotone !
Pardon. Alors, nous n'allons pas parler du développement de ce type d'application, car nous avons prévu prochainement de le faire dans une émission avec des développeurs. Non, nous allons voir comment, en fait, cette réponse qui se veut la plus naturelle possible aux mots de l'utilisateur donne un sentiment de puissance ou carrément une présence réconfortante, comme c'est le cas pour les personnes âgées au Japon ou dans le film Her de Spike Jones.
Je disais que l'OS du smartphone est particulièrement sexy.
T'es pas trop sourd, il y a acouphène et tout. Mais d'un autre côté, ces technologies qui restent coûteuses et dont les finalités ne sont pas toujours bien identifiées par leurs consommateurs, ben ces technologies, en soi, ne créent-elles pas aussi une redéfinition du foyer et de celle de l'intime, notamment en liant finalement son chez-soi avec un service d'e-commerce.
Je disais que pour ton dentifrice, tu peux aller te brosser et te le chercher toi-même.
Quand tu finis une journée particulièrement assommante, personne n'a envie de rentrer dans son appartement si ton appartement te boude. Et cette obséquiosité, cette volonté de toujours répondre aux désirs qui répondent des services associés de constructeurs derrière, ne crée-t-elle pas à la fois une démonétisation de l'argent avec une facture mensuelle et une nouvelle servitude où les serviteurs associés, le genre à pédaler à fond la caisse et de griller un feu rouge, tout ça parce que tu as commandé à la charmante voix numérique une calzone et un coca. Tu vas voir comment elle va être renversée la pizza à l'arrivée. Enfant du futur immédiat, il n'est point de pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Non, celle-là, je l'ai placée gratuitement. Et le première des choses qu'il faut aussi apprendre à couper les micros afin de se retrouver une solitude étrangement apaisante. Bon, et pas la peine d'hurler, hein, elle n'entend plus rien. Sa curiosité est éteinte. Guardians of Dalliance, Curious. Oui, je sais, ça remonte à un certain temps. J'en suis amplement désolé. Vous êtes sur Radio FMR et vous écoutez l'émission Carré Petit Utile.
Carré Petit Utile.
Et nous enregistrons la deuxième série autour de Kind by Up avec Pia et Anthony.
Tu vas y arriver, tout va se passer.
Allez-y.
Je vais te rebooter d'ici la fin de l'émission. On va commencer par poser une question hyper simple. En fait, on a décidé de parler des assistants personnels aujourd'hui. Et la vraie question, c'est qui sont les assistants personnels ? Est-ce que Siri peut être considéré comme un ou une, d'ailleurs, assistante personnelle ? Ou est-ce que mon smartphone dans son entier, hein, le téléphone que j'ai dans la main, peut être considéré comme un assistant personnel ? À moins que ce soit mon application Uber, hein, peut-être que chaque appli peut être considérée comme une assistante personnelle. Et du coup, nous, on a pris un petit contre-pied là-dessus. Je pense qu'avec Anthony, on se rejoint politiquement sur ces questions-là. Pour nous, les vrais assistants, il faut creuser un peu plus pour les trouver, en fait.
Ouais, on n'arrête pas de parler de l'embauche. On se réjouit, on fantasme que le secteur du numérique crée beaucoup d'emplois, que ça va résoudre des problèmes de chômage ou relancer l'industrie ou que sais-je. Mais peut-être que c'est plus compliqué. Par exemple, dans la Silicon Valley, alors qui est un peu l'endroit clé d'où partent toutes les apps qu'on critique à foison dans cette émission, on se rend compte, si on regarde en détail, que beaucoup de travailleurs, en fait, ne travaillent pas dans le secteur tech, ou en tout cas pas directement. Par exemple, chez Facebook, on a 7000 employés qui sont chargés d'identifier du contenu gênant, texte, image ou autre. Je vous passe les détails. Sans compter, évidemment, toute la task force nécessaire à l'entretien des locaux, du ménage, d'arroser les plantes ou que sais-je. Et donc, la plupart de ces employés du secteur technologique pourraient tout aussi bien, et ils seraient même mieux payés, chez Walmart, le Carrefour américain. C'est ce que dit en tout cas un article récent paru dans Quartz.com.
Ouais, donc au final, on nous en met une pleine tête sur le fait que la tech emploie plein de gens et que c'est absolument formidable et que ça constitue un nouveau modèle. Alors qu'en fait, ces gens sont, alors je dirais pas des esclaves, ça va un peu loin, mais il y a très clairement un usage ici du travailleur, du travailleur de la travailleuse qui est ultra compliqué.
Donc on fera mieux de s'inquiéter un peu de la French Tech.
Exactement.
Par exemple.
Et puis après, il y a cette question. Alors du coup, voilà, ça nous fait penser tous les deux qu'il faut toujours se rappeler que derrière les apps, il y a des gens, en fait. Alors quand on dit derrière les apps, hein, c'est pas uniquement ce qu'on appelle le back-office, hein, c'est-à-dire ce qui va permettre au site de tourner, mais c'est enfin toutes ces personnes qui déploient leur labeur, leur force de travail et qui forment la base, au fond, de cette économie de service. Et c'est bien eux et elles, et pas tous ces gens qu'on starise et qu'on héroïse dans les représentations très, très fantasmées de la Silicon Valley.
Oui, le sous-titre de cette émission, d'ailleurs, tu ne l'as pas donné, Pia, c'est l'ère de Jarvis. Et donc, ben, pour commencer, on peut se demander si ces assistants personnels, les applications qui vont avec, autour des objets connectés, ne créent pas finalement des nouvelles formes de servitude. Alors, nouvelles entre guillemets, qu'en est-il en fait dans cette ère du on-demand, où j'appuie sur un bouton et je commande, comme disait Xavier, une pizza ou que sais-je? Qu'en est-il du labeur invisible derrière ces applications? Autrement dit, c'est une question que je te pose, Pia. Comment le numérique, ou est-ce que le numérique, reproduit des formes de servitude qui lui précédaient ?
Bah c'est très clairement un truc qui m'obsède pas mal. Je vais faire un peu d'autopromo, j'espère que vous me pardonnerez. Il y a un article que j'ai écrit il y a un petit moment maintenant, qui met un peu de temps à sortir, parce que ça, c'est les affres de la publication universitaire. Ça va paraître... Pardon ?
C'est plus rapide à la radio.
Oui, exactement. Il y a une instantanéité qu'on aime bien, là. Et donc, c'est un article qui va apparaître dans la revue Médiation et Information, le numéro 43, pour ceux et celles que ça intéresse. Et donc, j'y parle de toutes les applications de livraison, enfin, les applications de livraison externalisées de nourriture. J'ai absolument rien contre les restaurants qui embauchent leurs propres livreurs-livreuses, mais toutes ces applis que sont Foodora, Deliveroo, Uber Eats, sont hyper problématiques. Et j'avais eu un déclic, en fait, en lisant un article de la journaliste Lauren Smiley, qu'elle avait publié en 2015 sur Medium, bon, plateforme que Anthony trouve problématique, on fera peut-être une émission un jour là-dessus. Et Smiley explique en fait comment il y a un nouveau modèle qui émerge dans la Silicon Valley, qui consiste en fait pour des gens à travailler comme des chiens, et à rentrer chez eux très tard le soir, et être trop épuisé pour faire rien d'autre qu'en fait commander de la nourriture, commander ses contenus culturels, commander son pressing, et au final se structure toute une expérience de la ville, qui n'est plus du tout, j'ai mes services en bas de chez moi, je descends, je vais manger au resto, ou que sais-je, mais je reçois tout chez moi. Et du coup, elle appelle cette génération de gens qui reçoivent tout sur commande, les shut-in en anglais, donc en gros, moi j'ai traduit ça par les cloîtrés, et c'est vraiment l'idée qu'en fait, vous avez toute une série de petits majordomes qui se dépêchent autour de votre baraque, avec leur vélo, avec leur voiture, leur taxi, de vous livrer ce dont vous avez besoin. Et elle évoque même le fait que ce paradigme a une espèce d'horizon assez angoissant, qui consiste en fait dans un super service qui les rassemblerait tous. Alors ça existe, ça s'appelle Alfred, ça a été renommé récemment Hello Alfred. Donc en fait, quand même le fait de gérer vos commandes Amazon, gérer votre Uber Eats et ainsi de suite devient trop compliqué, vous embauchez un majordome à domicile qui va coordonner tous les autres majordomes pour que quand vous arriviez, tout soit fait. Ce qui m'amène moi à conclure, et je pense qu'Anthony tu développeras, qu'on est face à une nouvelle classe de majordomes, mais qui est largement invisibilisée parce que c'est représenté sous les codes très très cool, des codes graphiques très séduisants du 21e siècle, des millénials et tout ça. Et ça invisibilise complètement le fait que ces gens sont rien de plus en fait qu'une classe de domestiques recréés après la Révolution française, après la disparition apparente des domestiques. Bon, après, il faudrait le dater.
Donc depuis ton article qui tarde à paraître, qui paraîtra un jour, j'espère, ben, beaucoup de journaux grand public se sont penchés sur le sujet, et notamment pour donner de la visibilité à ces tâcherons, je ne sais pas comment le dire autrement. Le Monde, en mai 2017, donc très récemment, écrit un article intitulé « Pédale ou crève », donc ils ne sont pas en marche, ils sont à vélo, dans la peau d'un livreur Foodora. Qui met en avant évidemment tout ce qu'on sait ou ce qu'on sait pas d'ailleurs, hein, sinon il y a peut-être pas autant de monde dessus, on peut se poser la question. Les concurrences entre coursiers, la sécurité, la précarité évidemment, des non-contrats de travail, et donc ce pauvre journaliste qui s'est retrouvé dans la peau d'un livreur pour faire ce reportage.
J'ai pas abandonné l'idée de le faire d'ailleurs, parce que les questions qu'on réécrive sur le sujet, je crois qu'il va falloir que je m'y colle et que je passe la journée sur un vélo Deliveroo. Mais enfin, on n'est pas là uniquement pour parler de Deliveroo. Moi, Anthony, j'aimerais bien que tu nous parles.
Journalisme total et gonzo.
Exactement, c'est l'idée, c'est le concept, c'est design gonzo, on a pensé, dis-toi.
Bah, pour bien connaître ce qu'on critique, il faut peut-être le tester en profondeur.
C'est l'idée. Mais alors, un truc que tu n'as pas testé justement, mais dont tu vas nous parler, je crois, c'est Uber et par extension, les conditions de travail. Moi, j'ai désinstallé l'application depuis longtemps.
Mais tu t'en es servi.
Malheureusement, ouais. Non, maintenant, je fais un truc hyper lâche, c'est que je monte dans des taxis Uber quand des gens ont l'appli. Donc j'en profite, c'est juste pas moi qui paye le service.
J'ai fait ça aussi, je l'ai installé et je l'ai désinstallé parce que j'avais la flemme de rentrer la carte de crédit. Heureusement, Apple Pay n'étant pas supporté par ma banque, ça, j'ai pu m'en sortir comme ça. Oui, bah, Uber, je voulais faire un petit focus sur des polémiques récentes ou pas. Donc voilà, un petit point sur cette entreprise. Donc je sais pas si on voudra se transformer en chauffeur Uber à la suite de Deliveroo. Mais alors, c'est en 2015, l'application Uber, donc très populaire, a failli être complètement supprimée, enfin virée de l'Apple Store par Apple, tout simplement parce qu'elle était accusée, à juste titre, de traquer les utilisateurs alors même qu'ils avaient désinstallé l'application. Donc ça enfreignait complètement les règles de l'Apple Store. Ensuite, un article de 2017 sur Internet Actu qui met en avant des pratiques très louches, des dark patterns, l'algorithme d'Uber, en tout cas un sous-algorithme, permettait d'échapper à la loi, à la police, afin de protéger les chauffeurs. Et donc, il y avait, en fait, le code faisait loi par-delà la réglementation des différents gouvernements. Uber devenait un État dans l'État.
Elle craint tellement cette entreprise, en fait. Quand on commence à chercher des articles sur Uber, c'est hallucinant.
Oui, attends, il y a encore pire, en fait. J'ai gardé le meilleur pour la fin. C'est que...
Attendez, excusez-moi, mais vous avez jamais vu comment ça marchait les taxis G7, vous, hein?
Ah si, bien sûr, mais attends, dans le pire, tu as des milliers de degrés. Hein. Moi, j'ai passé 10 ans à Paris, je connais les taxis G7, mais bon, Uber, c'est une autre histoire.
Je pense pas que nos algorithmes, ils étaient aussi loin, en tout cas sur le champ du numérique. Après, on peut parler d'autre chose, mais en tout cas, alors pareil, un article très récent, paru toujours sur Internet Actu, qui décidément aime bien critiquer Uber, qui analyse cette fois non pas l'application du côté de l'usager qui commande son taxi, mais du côté des chauffeurs qui triment beaucoup pour gagner peu d'argent. Et donc, l'application côté chauffeur, donc une autre application, met en place un système d'encouragement, alors qui prend la forme de mini-jeux, ce qu'on appelle la gamification, mais qui en fait incite les chauffeurs à travailler toujours plus avec des systèmes de récompense ou d'encouragement sous un ton léger, du genre vous êtes à mi-chemin du bonus, félicitations. Et en fait, tout ça pour les faire travailler toujours plus, pas dans leur propre intérêt, mais dans les moments ou les zones où Uber a intérêt à gagner le plus d'argent. Donc, autrement dit, est intégré dans l'algorithme et surtout dans l'interface elle-même, dans le design de l'interface, une conception comportementale de l'environnement de travail. Alors là, on parle d'Uber, mais c'est des choses qui sont en train d'arriver et qui sont même déjà présentes dans bien d'autres domaines d'activité humaine.
T'as un exemple ?
Vous aurez compris que Uber, avec tout ça, on pourrait dire que c'est comparable à un cartel de drogue. Enfin, on n'est pas très loin, hein, quand on enfreint les lois, on masque tout, etc.
Il y a une partie qui est importante aussi là-dessus, sur cet aspect double face. On le retrouve complètement dans le codage des applis et la manière dont les applis sont structurées en termes de consultation et d'expérience utilisateur. Il y a souvent deux volets de l'application. C'est-à-dire que vous avez une expérience de l'application quand vous êtes, entre guillemets, simple usager, usagère. Et puis, l'application a une sorte d'autre face. Alors, c'est un peu le cas aussi pour Airbnb. Vous voyez des choses que les usagers, les usagères ne voient pas et qui sont donc faites uniquement pour vous, comme est en train de le décrire Anthony,
oui,
avec le principe de la gamification.
Ton exemple est bon. Effectivement, l'application pivote littéralement, l'écran se retourne et donc on passe de loueur d'appartement, on fait des magazines, des super photos, à tâcheron de son propre appartement. Il faut mettre des serviettes, ranger le lit, faire la vaisselle, etc. pour satisfaire les autres. Donc c'est intéressant parce que là, c'est la même application où une même personne peut être placée d'un côté ou de l'autre.
Exactement, et c'est toujours le même discours en fait, c'est qu'on vous promet toujours que vous serez incroyablement heureux, que vous soyez usager. Enfin, quand on regarde par exemple les applications, enfin, comment Deliveroo communique pour les futurs coursiers, c'est assez hallucinant. Il y a vraiment ce discours du bonheur total qui est le même soi-disant pour l'usager ou celui qui pédale. Et on se rend compte quand même que ces applications de service, alors après là on déborde un tout petit peu des applications de service, on est vraiment aussi dans les réseaux sociaux, ou ce que moi j'appelle les néo majordomes, proposent des lignes de partage politiques qui sont vraiment difficiles. J'ai un autre exemple à GAFAMLAND. Sur Facebook, il y a Didi Delgado qui a pas longtemps, encore sur Medium, produit une critique à l'endroit de Mark Zuckerberg, qui apparemment est les personnes afro-descendantes. Puisque les activistes afro-descendants sont régulièrement censurés sur Facebook, très rapidement et beaucoup plus rapidement que les suprématistes blancs, ils sont en fait leurs comptes sont bloqués, leurs propos sont censurés. Et Didi Delgado propose une lecture assez intéressante en disant qu'en fait les comptes ne sont pas bloqués complètement, c'est-à-dire qu'un activiste noir va par exemple pouvoir continuer de voir les comptes de ses copains, va peut-être pouvoir envoyer des messages privés, mais par contre il ne va pas être capable d'émettre du contenu. Et ce que dit Delgado, qui est hyper intéressant, c'est qu'en fait, cette manière en fait, d'être lecteur mais pas émetteur, ça reproduit complètement des logiques de lois esclavagistes très anciennes, puisque les esclaves noirs, dans les plantations, avaient le droit d'apprendre à lire, mais pas le droit d'écrire. Et donc, elle dit ici qu'à l'endroit en fait, d'une application et dans ses algorithmes, et dans la gestion des algorithmes, se reproduisent quelque chose de logique raciste. Donc, on voit ici qu'à chaque fois, il y a des lignes de pouvoir. Alors, ça peut être des logiques classistes avec les majordomes ou des lignes racistes avec les activistes noirs sur Facebook. Mais il y a là, comme ça, des logiques assez anciennes qui ressurgissent quand bien même on nous promet de l'innovation et un monde meilleur avec les technologies du numérique.
Donc, si je commande mon Uber depuis Facebook, en gros, voilà, si je te suis, Pierre, on est soit esclave, soit majordome dans toute cette histoire. Il n'y a pas d'issue possible.
C'est un peu notre horizon. Et il n'y a pas longtemps, d'ailleurs, cette comparaison avec la question des majordomes, elle est assez présente. Il y avait une émission de France Culture, donc il n'y a pas longtemps, qui faisait toute une réflexion sur les majordomes au cinéma. Donc on en connaît de nombreux. Il y a Alfred dans toute la série des Batman. Xavier Delaporte, lui, citait un film de James Ivory avec Anthony Hopkins. Et cette citation que je trouve absolument merveilleuse, « Quand un domestique est dans la pièce est encore plus vide ». Donc on est en plein dans le paradigme d'invisibilité de l'aide et du service, alors qui existe depuis toujours. Hein. Quand on lit Huysmans, on a déjà l'idée des moquettes qu'on installe pour pas entendre les petits pas des majordomes qui passent dans les couloirs. Mais on retrouve ça aujourd'hui avec les applications qui travaillent à rendre invisible tout ce labeur-là.
On fait une pause du coup. Hell, Happy House. Vous deviez être en maternelle quand ce morceau est sorti, c'était en 2002. Oh, ce couteau, s'il te plaît, je veux terminer la production de l'émission avant.
Mais non, j'avais mon bac.
Ton bac.
En 2001.
Ah mince, pardon. Oh punaise. J'ai tapé juste. Oups, je me sens vieux tout d'un coup, au secours. Vous écoutez Radio FMR, c'est l'émission CPU Carré Petit Utile. Et donc, nous faisons un kill by app autour des assistants dans votre maison.
Pia, on a un problème. Notre émission est un truc de crypto geek. On n'a même pas expliqué à nos éditeurs ce que voulait dire Jarvis, étant donné qu'on a parlé de l'ère de Jarvis. Et ils ne savent toujours pas ce que c'est. Donc, c'est pas cette voix un peu ringarde dans Iron Man ?
Alors, elle n'est pas ringarde. Je pense que si tu dis qu'elle est ringarde, c'est que Jarvis, donc, qui est l'assistant vocal du personnage Tony Stark dans Iron Man, a en fait un accent britannique, qui te fait peut-être dire que voilà, il est un peu out of date, on va dire en anglais également. Mais Jarvis est en fait tout à fait central dans la fiction Iron Man. Alors, je parlerai peut-être plutôt des films, je ne vais pas me lancer dans les comic books, parce que là, je vois Descript qui me fait d'énormes gros yeux, mais non.
Non, non, ce n'est pas d'énormes gros yeux, c'est qu'effectivement, Jarvis était censé être le majordome du père de Tony Stark, mais c'est aussi, c'est une référence à un autre Jarvis d'un comics des années 30, donc je sais plus lequel exactement. Ça, c'est mon, gros regret. J'ai pas assez bossé sur le coup.
Mais alors, du coup, Jarvis, qu'est fait Jarvis pour Tony Stark? Il l'aide, il lui fait des blagues, il le réconforte, il lui fait des calculs très puissants pour l'aider à constituer son costume de métal. Et en même temps, en termes de fiction, parce qu'en design, on s'intéresse toujours à ce que fait la fiction et comment elle peut éventuellement aider à démocratiser certains usages, bah, c'est vraiment cette idée de naturaliser les échanges vocaux entre l'humain et la machine. Seulement, moi, il y a un truc qui m'arrête. Alors vraiment, aujourd'hui, je suis sur des questions politiques qui, moi, me semblent centrales à l'époque. On se rend compte qu'il y a des logiques classistes dans la représentation des assistants de Tony Stark. Donc Jarvis, donc, qui n'est qu'une voix, hein, je répète, c'est vraiment l'assistant vocal de Tony. C'est le majordome anglais, type Alfred, donc certes qui est majordome, mais qui est quand même assez distingué et éduqué. Et il y a un autre personnage...
Il n'est pas tout seul.
Et voilà, il n'est pas tout seul. Il y a un autre personnage qu'on oublie tout le temps, qui s'appelle Butterfingers. Donc en gros, je ne sais même pas comment on pourrait traduire, quoi... des pattes maladroites, quoi. Et en gros, tout lui glisse des mains. Et en fait, c'est un assistant qui, lui, est un bras électronique, donc qui ressemble vraiment beaucoup au bras électronique qu'on voit dans l'industrie automobile.
Ce qu'elle appelle un bras électronique, c'est un 6-axis. C'est un robot industriel, voilà.
Oui, si vous voulez. Bah, non, mais ça prend la forme d'un bras, donc ça, symboliquement, c'est une partie de corps. Et Butterfingers est complètement exécutant, en fait. Et il obéit très mal, il se fait tout le temps disputer d'ailleurs par Stark aux ordres, mais lui n'a pas de voix.
Ouais, c'est ça, en fait, le bras qui renvoie à l'usine, donc au labeur, ou en tout cas à l'ouvrier, il vaut silence.
Bah, les assistants personnels vocaux, du coup, dans cette fiction-là, semblent réaffirmer des lignes de partage corps-esprit, donc des logiques de classe. Et moi, je me pose toujours la question, vous allez me trouver un peu monotrac aujourd'hui, mais des questions de race, parce que Jarvis est très clairement un homme blanc, on le comprend avec
des
l'accent.
Des races pour des robots?
Bah, si tu veux, symboliquement, quand même, on trouve bien ces dynamiques-là. Alors, j'irai pas jusqu'à dire que Butterfingers représente un assistant noir, mais enfin, quand même, la question se pose entre la voix british et éduquée et ce bras mécanique qui n'a pas de voix et qui, comme tu l'as dit très bien, voué au silence.
Ça, c'est une vieille histoire, ça date des années 50, jusque justement, il y avait des super-héros qui avaient des assistants qui étaient noirs ou des seconds qui étaient noirs. Ça a été très, 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 très mal vécu. Et donc, dans les années 60, ils ont tout. Où, ils ont rebalancé vers des assistants anglais.
Ouais, mais c'est pas pour ça que justement le naturel revient pas au galop ou qu'inconsciemment il n'y a pas ces logiques-là qui reviennent. Mais alors, des logiques de classe vraiment puantes, si j'ose dire, Anthony en a trouvé un exemple assez génial et très parlant.
Good morning, Jarvis.
Good morning, Mark. It's Saturday, so you only have 5 meetings. Room temperature is set to a cool 68 degrees.
Earlier this year, I started building a simple AI to help run our home. I talked to Jarvis using this app I built. It uses artificial intelligence to understand me and figure out what to do.
Max woke up a few minutes ago. I'm entertaining her.
All right, let's go check on her.
Je trouve ça, mais insupportable. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous aurez peut-être reconnu la voix de Morgan Freeman. Donc, c'est un acteur afro-américain. Qui là en fait prend la voix de l'assistant vocal de Mark Zuckerberg filmé chez lui. Enfin, Anthony, tu veux peut-être un peu décrire la vidéo.
Ouais, on va arrêter avec les logiques raciales, même si c'est important. Mais pour nos auditeurs, alors c'est Mark Zuckerberg, donc le fondateur de Facebook, qui en tout cas prétend avoir codé son Jarvis, son assistant personnel, son super assistant pour sa maison depuis qu'il est papa, tout simplement pour gérer son bébé, accessoirement sa femme, on ne sait pas trop. Enfin, oui, en fait, on le sait, il le dit en fait à un journaliste de Fast Company. L'algorithme reconnaît les meilleurs morceaux comme sa femme et donc elle est plus heureuse grâce à Jarvis. Et donc, alors on peut voir ça de plein de façons, effectivement, la logique raciale avec Morgan Freeman. Mais en tout cas, au niveau des fonctions, bah, ça reste finalement assez standardisé. Il peut faire ses toasts le matin, ça ferme les rideaux, ça reconnaît qui sonne à sa porte. Et puis, alors forcément, comme il a la tête d'une entreprise qui prétend avoir près de 2 milliards d'utilisateurs, bah, le fait que le fondateur historique soit encore capable de coder en 150 emprunteur à un super programme, c'est aussi une grosse crédibilité dans la communauté développeur geek. On peut aussi le voir comme ça.
Je ne peux pas m'empêcher, moi, quand même, malgré tout ça, de trouver ça très désagréable. Alors, la défense, si l'on peut dire, de Zuckerberg, c'est de dire que Freeman est une forte figure masculine, voilà, imposante. Alors bon, ça pose déjà plein de problèmes. Mais enfin... avoir quand même une personne afro-descendante qui fait la voix d'un majordome qui s'occupe de tout dans la maison, quand en plus cette voix, c'est celle d'un acteur qui a joué à l'époque dans Miss Daisy et son chauffeur, qui est un exemple terrible de racisme, on va dire, adouci et du syndrome de l'oncle Tom, alors vraiment, mais rendu lisse.
Toi, t'as vu qu'un quart du film, alors.
Ah non, je t'assure. Non, c'est
après, il y a une...
Mais c'est pas moi qui le dis, là, je cite des personnes qui en plus sont afro-descendantes et qui critiquent le film de manière très très forte. En plus, là, excusez-moi, on est que des blancs autour de la table. Donc c'est un peu gênant.
À la radio, ça se voit pas, heureusement.
Ça s'entend.
Exactement. Alors justement, en parlant de ça s'entend, ben, Jarby, c'est aussi l'héritier de tout un tas d'assistants vocaux qui sont déjà présents dans nos smartphones et intérieurs domestiques. Alors, on n'est pas Mark Zuckerberg, on n'a pas son Jarvis, mais on a plein de trucs. On a Apple Siri, depuis 2007, dans nos smartphones iOS. On a Google Now, copié par Google en 2012. Et Microsoft, toujours dernier, en 2014.
Faux. Microsoft avait commercialisé en 1999 un service d'assistant vocal qui se pluguait sur ton abonnement Bouygues Télécom et qui écoutait l'ensemble de la conversation et qui, à la fin d'une conversation, te disait « Est-ce que je vous note dans votre agenda tel rendez-vous ?» Elle reconnaissait à la volée en fait les rendez-vous dans les conversations téléphoniques. C'était assez bluffant.
Génial.
En même temps, la liste d'Anthony... Alors bon, après, on peut un peu comparer les datations, mais ta liste arrête en 2014. Moi, j'aimerais bien que tu nous fasses une liste de tous les services, parce que j'ai noté qu'on avait Alexa, Dash, Echo. Je m'en sors plus. Là, j'ai lâché l'affaire. C'est pas que ça va trop vite, c'est que tout se ressemble, en plus.
C'est ça. Là, on bascule dans la galaxie Amazon et les objets Gremlins qui se multiplient. J'ai fait une petite liste. Alors, il y a Alexa, donc, qui est la voix d'Amazon, enfin, l'assistant personnel intelligent, comme ils disent, avec des guillemets. 2014, Amazon Dash. Alors, Pia, c'est ces petits dispositifs Wi-Fi, c'est les sortes de boutons qu'on scotche sur le frigo et qui permettent en un clic de recommander donc sur son compte Amazon Prime, donc on se fait livrer dans l'heure, enfin ça dépend où on habite, du PQ, des courses, des bouquins,
c'est ça que j'allais oublier,
que sais-je.
PQ. Oui, merci.
Et donc voilà, donc en gros ça permet soi-disant à chaque membre de la famille de construire sa liste d'achat ou peut-être de faciliter le travail de la ménagère. Ça en tout cas c'est pas affirmé comme tel, mais peut-être que Pia tu nous reparleras de ces logiques de domesticité et de ménagère. 2014 toujours, Amazon Echo, alors c'est peut-être le produit le plus connu, même si on l'a toujours pas en France, c'est cette fameuse enceinte connectée qui embarque donc l'assistant Alexa et qui permet de commander tout ce qu'on veut, de lancer de la musique ou que sais-je. 2016, j'ai bientôt fini, Amazon Echo Dot, donc c'est toujours des petites enceintes, sauf que cette fois c'est plus orienté domotique, on les met dans toutes les pièces pour commander les stores, les lumières, etc., etc.
Moi, quand je vois tout ça, je me pose toujours la question de « mais ça marche commercialement ? Les gens ont envie d'avoir ça ?»
En France, on ne connaît pas, mais les chiffres que j'ai trouvés, en 2016, Amazon a vendu 10 millions d'enceintes connectées. Alors, c'est les chiffres aux États-Unis, Angleterre et Allemagne confondus. C'était le premier objet vendu sur Amazon. Donc, ce n'est pas un objet de niche, comme peut-être le Kindle
c'est,
ou encore
c'est
pire.
C'est surtout que ce n'est pas cher.
Les tablettes Kindle. Oui, c'est ça. C'est $100 si on a le compte Amazon Prime. Donc,
Je crois que le plus cher, c'est celui qu'Apple a annoncé la semaine dernière.
Ouais, exactement. On va en parler. Apple qui arrive un petit peu après la bagarre. Amazon Tap, bon, je passe. Echo Look, dont Pia parlera. C'est assez intéressant. Mm. C'est une caméra connectée qui permet de dire si on a... des jolis vêtements ou pas, on en parlera.
Ouais, j'en reparlerai après. Alors là, j'ai fait la partie, on va dire, structure raciale. Je ferai une petite partie structure de genre plus tard. Là, il me semble quand même que dans ta petite liste, on a juste balayé des productions Amazon, mais enfin, ils sont pas les seuls.
Ouais, en fait, j'ai prévu d'acheter des actions GAFA, donc c'est pour ça que je suis un peu de pub.
C'est parce que t'es dégoûté de pas avoir acheté des bitcoins à temps, ça.
C'était des Ethers, mais ça vient de chuter, donc je vais pouvoir en acheter.
Ah.
Alors, du coup, Apple arrive là très récemment, en juin 2017, Apple annonce le HomePod, donc c'est toujours une enceinte, alors cette fois reliée à Siri, évidemment, pas à Alexa, qui permet de lancer de la musique, il y a un peu de domotique, il n'y a pas trop l'idée de... Si, il y a aussi Domino, que je crois qui est partenaire, on peut commander sa pizza. Voilà, je sais pas qu'est-ce que t'en penses, Pia. Ou si est-ce qu'il y a une vie en dehors des GAFA, en fait? On va arrêter de parler d'Amazon.
GAFA me ne pas oublier Microsoft, c'est toi qui me le dis systématiquement.
Ouais, en plus, Xavier nous l'a rappelé.
Il y a des acteurs plus marginaux. Alors, marginaux, non, c'est juste que c'est local, c'est Wuzhang. On va en parler quand même, c'était dans le 20 minutes de ce matin. On a une entreprise...
À la date où on enregistre, voilà, lundi, donc 12 juin.
Oui, mais peut-être que dans le 20 minutes de la semaine prochaine aussi, je ne sais pas, il ne sera pas passé.
Tu nous retrouveras le lien quand on le met sur le site cpu.pm, s'il te plaît.
C'est, bah, en même temps, ça date d'un peu plus longtemps. C'est l'entreprise Téléquid, qui est donc une entreprise toulousaine, qui a inventé un pense-bête intelligent. Donc c'est une sorte, alors je sais pas comment on peut dire, une sorte de petite cellule qu'on place sur son...
Un dictaphone ou un truc comme ça.
Un petit pod, ouais, voilà, qu'on met sur son porte-clés, qui en fait est connecté à son smartphone. Et puis quand on entend une chanson qu'on aime bien, quand on a une espèce d'idée brillante, ou quand on a une conversation avec quelqu'un, on veut prendre une note pour un projet, on s'enregistre sur le petit pod qui rebascule tout ça sur une application, sur le téléphone. Donc c'est d'une certaine manière une réplique du dictaphone en fait. Bon après c'est fabriqué localement, on peut quand même saluer ça. Moi j'ai un petit doute, j'ai rien contre ces gens, après ils vont m'attaquer, ils vont m'attendre.
Ils ont signé avec Orange un contrat
sur le parking
déjà,
à la sortie, ouais. Mais juste on peut quand même préciser que c'est fabriqué à Montauban, assemblé à Casse. Bon belle initiative quoi. Mais est-ce qu'on a besoin, la question du besoin du côté du design, elle reste entièrement ouverte.
Bon en tant que designer graphique quand même, si tout passe par la voix, est-ce que j'ai encore du travail? Est-ce que ça signe pas une certaine mort du design graphique, toutes ces histoires d'interface vocale dans enceinte, bye bye quoi, plus de forme, plus d'interface graphique.
Mort de l'interface, voire mort de l'ordinateur, non?
Bah, c'est ce que dit Mossberg, alors un chercheur, dans un article The Disappearing Computer, l'ordinateur invisible ou disparaissant, je sais pas trop, paru dans The Verge en 2017. Il dit qu'on est passé dans l'ère de l'informatique ambiante où du coup tout passe par la voix, tout est fluidifié, plus ou moins invisible.
Bah on avait ça dans Her de Spike Jonze, hein. On parlait de tout à l'heure comment les films naturalisent des usages à venir. Très clairement, les interfaces graphiques sont complètement secondaires ou rétrécies vraiment au strict minimum et tout se passe par la voix.
2014, intéressant le film comme Amazon Echo. Mais attends, ton truc Her que t'adores là, c'est pas un truc de blanc riche.
Mais de toute façon, les apps c'est pour les gens blancs et riches. Hein. Si tu regardes la pub, d'ailleurs c'est assez génial. Si tu regardes toutes les promos ou les démos de ces trucs là en ligne, on te donne des exemples d'activités facilitées par les assistants vocaux. C'est ah bah tiens, on vous rappelle de prendre l'avion. Ah mais attendez, on va commander votre Uber depuis l'aéroport. On va noter votre Airbnb. Là, on est quand même en plein dans des trucs, alors je sais pas, de bobos ou de milléniaux hyper fliqués.
Je vais
quoi.
Dire, Pia, ce qu'il faut faire. On va peut-être le faire un jour. Il faudrait faire le Siri du pauvre. Enfin, le Siri qui peut trouver le pôle emploi, commander ton kebab, envoyer $100 par Western Union en Afrique. Mais je pense que ça marcherait pas, en fait. Siri, ouais, c'est pas gérer ça.
Ça va marcher comme projet de design critique, peut-être. Mais après, il existe quand même des objets accessibles. C'est toi qui me le rappelles souvent. Enfin, on n'est pas entièrement d'accord là-dessus. Mais Amazon n'est pas Apple quand même. Hein. C'est pas le même positionnement.
Ah, ce que dit Fred Cavazza, en fait, Amazon cible le grand public ou les beaufs, on peut dire ça, ceux qui achètent des couches, du PQ, qui font leurs courses en ligne pour leur famille, leurs gamins. C'est pas les millennials ou les hippies branchés d'Apple, quoi. Peut-être.
Alors, moi, je voulais parler à ce propos de la Zapette et de Amazon Dash. Je voulais revenir sur ce truc-là. Donc, très rapidement, Amazon Dash, ça prend une forme de télécommande et ça permet deux choses. Quand vous n'avez plus de confiture ou de pâte ou que sais-je, vous scannez en fait votre article ou vous le commandez par la voix. Et ça prend une forme de télécommande. Alors, il y a cet aspect point and click. Ça, pour moi, ça reprend aussi des logiques de gamification complètement. Et ça ressemble quand même beaucoup, il faut bien l'admettre, à un sextoy. Et alors, c'est quand même étonnant de voir débarquer ces modèles de désir ou de forme de plaisir associés à des formes de consommation. Tu fais la grimace d'Astrich, mais je t'assure qu'il y a quand même un paradigme du sextoy qui est en train, alors excusez-moi, de pénétrer les usages grand public.
Bah, en parlant de pénétrer les usages, du coup, c'est peut-être le moment de nous parler de cette caméra Ecolook, parce qu'il s'agit d'être sexy dans cette histoire.
Ouais, alors la caméra Ecolook, globalement, on se met devant le matin et la caméra vous dit si en gros vous êtes bien fringué ou non, ou elle vous permet de comparer des tenues. Ah ouais, non, là, tu nous as mis ta plus belle
là,
chemise hawaïenne. C'est vraiment.
Avec les beaux temps, j'avais pas une Ferrari.
La caméra bloque ta porte d'entrée, tu restes chez toi, tu restes shut-in, quoi, direct.
Alors, juste pour revenir sur Ecolook, ça pose quand même deux problèmes au moins. Soit on juge de la qualité d'une tenue, on va dire intrinsèque, est-ce que des poids vont avec des rayures, et là, on se demande vraiment comment est fichu l'algorithme pour produire cette typologie de critères esthétiques. Et il y a un second problème, désolé, là, on revient encore sur des logiques de discrimination. En fonction de quoi l'application va-t-elle juger que telle ou telle chose vous va ? C'est-à-dire si elle scanne, s'il y a une reconnaissance faciale, si elle voit que vous êtes noir, que vous êtes gros, que vous êtes invalide, que vous... Alors, je sais pas, mettons même vous êtes une femme trans, si l'application vous lit comme un homme, elle va vous dire non, on ne met pas de robe. Enfin, c'est vraiment très compliqué ces choses-là. Et ça pose des questions de comment sont fichus en fait les algorithmes à l'intérieur et sur quels critères la sélection et la comparaison va se faire.
Ils sont pour les hommes blancs, mais ils sont faits par les hommes blancs, donc à partir de là,
c'est ça, un élément de réponse. Ça fait un peu peur.
Alors bon, je vais là on parle de productivité ou d'être sexy, mais c'est des imaginaires qu'on avait déjà dans des films, hein, ces rêves de la maison connectée, dans Alexandre le Bienheureux de Yves Robert avec Philippe Noiret, 1968. Peut-être un imaginaire plus bucolique de la domotique. On a donc cet agriculteur qui veut en faire le moins possible et qui donc invente tout un ensemble de dispositifs pour depuis son lit boire du vin rouge, il se fait servir de la nourriture par son chien, qui donc est lui un assistant animal et non pas algorithmique.
Mais c'est un vieux rêve ça. Dans Wallace et Gromit, on avait ça aussi, tu sais, c'est le truc où t'as ton lit qui s'incline le matin, tu tombes dans ton pantalon, ton toast arrive comme par magie devant toi. C'est quelque chose qui revient souvent, alors c'est associé à la figure du savant fou ou de l'inventeur génial, mais il y a vraiment cette idée de « punaise, si j'arrivais à ne plus rien faire, quoi, au fond ».
C'est ça, c'est l'imaginaire du toast. Du coup, cet assistant aussi, enfin, ces assistants, dans les films plus récents, mais malgré tout antérieurs aux usages, comme dans Smart House de Disney, ça, c'était déjà présent peut-être, Pierre.
Smart House, c'est un film absolument génial. Non, en vérité, il est complètement nul. C'est un téléfilm vraiment pourri, mais qui est super intéressant pour aller très vite.
T'as donc exhumé des vieilles bouses quand même.
Ouais, bah attends, c'est le travail de recherche, ça, c'est pour la science. C'est une famille avec un papa veuf et ses deux enfants qui gagnent dans un jeu à la radio d'ailleurs une maison connectée. Et sauf que il y a quand même cette idée que rien ne remplace une maman et l'enfant ado est quand même je sais plus exactement, mais enfin il est très fâché de cette intelligence domestique qui en plus est produite par une ingénieure qui essaie de sortir avec son papa, donc il est très jaloux et il reprogramme l'intelligence artificielle qui était un assistant vocal mais qui du coup en étant reprogrammé va se rematérialiser en un hologramme de housewife parfaite des années 50 avec cheveux lisses et petits tabliers. Donc l'intelligence artificielle scanne des milliers d'images des représentations de la housewife pour finalement se matérialiser de cette manière. Et en fait, elle pète un plomb, elle devient surinvestie, étouffante, elle veut tout contrôler, elle interdit aux gens de manger parce qu'il y a trop de calories, elle éteint les lumières de manière autoritaire parce que c'est l'heure d'aller dormir, et ainsi de suite.
Bon, Disney, c'est bien, mais les Simpsons, c'est mieux. Effectivement, il y a un épisode des Simpsons qui reprend un peu cette histoire en version film d'horreur un peu.
Le rêve de la ménagère, ça vous intéresse ?
Oh non, un vendeur robot !
En équipant votre maison d'un Ultra House 3000, vous ne ferez plus aucune tâche ménagère !
Plus de tâches ménagères ?
Tu as vu les rideaux, oui. Ah, 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 ah.
Bonjour Ultra House !
Sincère salutation.
Il faudrait personnaliser un peu cette voix.
Oh, essayons Matthew Perry.
Ouais, je suis une vraie petite fée du logis.
Oh nul, qu'est-ce qu'il y a d'autre ?
Et je suis mieux équipée qu'une navette spatiale et j'ai pas besoin de compte à rebours pour me lancer sur le boulot.
C'est pas la voix qui a provoqué une vague de suicides ?
De meurtre suivi de suicide !
Hé, pourquoi pas 007 ?
Tu veux dire Sean Connery ?
Non, Pierce Brosnan. Une voix comme la sienne donnerait la touche raffinée qui nous a toujours manqué.
D'accord, mais c'est parce qu'il a joué dans la série Remington Steele. Il était bien Remington Steele ?
Oui, en effet, Marge. Merci de m'avoir choisi.
Je ne sais pas si vous avez reconnu la parodie de l'Odyssée de l'espace, film de Stanley Kubrick de 68. Donc ce point rouge tout puissant. Alors il y a plusieurs théories sur le nom. IBM décalé d'une lettre qui ferait H-A-L. Ou Heuristically Programmed Algorithm Computer. Je ne sais pas si Xavier, tu as la réponse entre ces deux hypothèses.
Je crois que ça c'est plus proche effectivement de vis-à-vis d'IBM.
Donc voilà, donc l'épisode Simpson parodie cet imaginaire tout puissant de la machine qui prend le pouvoir et qui même dans H.A.L. en vient à agoniser.
Bah du coup, à l'origine, dans l'Odyssée de l'espace, c'était l'intelligence artificielle qui gérait tout le vaisseau. Mais dans la version des Simpsons, ça devient un assistant domestique, mais qui tombe amoureux de Marge et qui, du coup, va chercher à remplacer Homer et à le tuer. Et ça, on retrouve ça très souvent. On l'avait vu dans Smart House aussi. Hein. À chaque fois, l'intelligence artificielle devient une figure, que ce soit une maman, un amant, un copain, mais qui essaye au final d'exister vraiment et de devenir une vraie personne.
Du coup, la parodie des Simpsons, elle est intéressante parce qu'on retrouve toujours cet œil rouge et finalement, on retombe un peu dans les mêmes tropes, les mêmes topos formels. Il y a une pauvreté des imaginaires formels des objets qui, dans la fiction, quand ils deviennent complètement barges ou marges, deviennent intéressants. Et c'est pareil, finalement, dans le HomePod de Apple, vu de dessus, ça ressemble à HAL, surtout la version noire, sauf que l'œil rouge est tout pastel, en fait, en bleu, violet et vert, parce que c'est Apple, ils vont quand même pas faire un truc trop flippant.
Mais d'ailleurs, cet esprit flippant là, de l'œil de HAL, on le retrouvait dans Terminator. Hein. Donc ça aussi, c'est un imaginaire qui va chercher assez loin et qui est réactivé de plein
non,
de manières.
Non, c'est qu'à l'époque, c'était la seule couleur disponible pour les LED et que c'était ce qui consomme de moins pour les
lampes. Mais ça, c'est une explication factuelle. Mais n'empêche que dans les imaginaires et la symbolique, ça recoupe. Bah, forcément, il y a des associations d'images.
Et donc, Panic Room de Fincher aussi, intéressant pour le réseau vidéo, la surveillance, mais peut-être tu peux en parler, Pierre.
Ouais, c'est, alors là, on est plus dans des côtés paranoïaques. Alors, ça va paraître complètement décalé, ce que je vais dire, parce que c'est vrai que Panic Room n'est pas du tout dans des imaginaires de surveillance ou de domotique de l'ère d'Internet. C'est pourtant un film de 2002, mais c'est un film dont la connexion est vraiment lofi. Hein. C'est une connexion de caméras entre elles, il y a des automatismes, mais on n'est pas dans, on va dire, dans des fantasmes de liés à la culture numérique.
Non, c'est plus des fantasmes de super riches, puisque c'est en général ce type de population qui installe cette porte secrète, cette safe room.
Complètement.
Exactement, et c'est réactivé aussi, parce que c'est des riches aussi dans la série Mr. Robot, enfin en tout cas hackers riches, parce qu'ils ont gagné beaucoup d'argent grâce à leurs compétences informatiques. Et la maison dans cette série, donc Black, de Mr. Robot, dans la deuxième saison, devient complètement folle, les objets sont hackés, ça devient comme un film de Hitchcock où il y a une symphonie, l'eau devient trop chaude et la personne ne peut rien débrancher. Le personnage dit unplug, unplug, non, je ne peux pas, c'est caché derrière les murs. Et donc elle est totalement prise au piège. Alors peut-être la solution, c'est peut-être de vivre sans ça et de vivre sans cuisine, comme dans ces appartements new-yorkais élitistes dès les années 80 pour ces personnes célibataires.
Ça, c'est aussi un paradigme qu'on a retrouvé dans la fiction, hein. Rappelez-vous dans Sex and the City, désolé, point Sex and the City, Carrie Bradshaw qui disait j'utilise mon four pour le stockage, mais c'est ancien, voilà, c'est les années 2000, mais bon, même ton article est encore plus ancien, hein, Anthony, si je ne me trompe.
C'est ça, en fait, on sort jamais de la maison, quoi. Symboliquement, on se replie, on est cloîtré, comme le disait Lawrence Miley, même quand on va faire son footing, les données arrivent dans la maison. Tout ça, est géré par ça.
Ça donne quand même un...
Pause,
d'accord.
J'ai été interrompu, mes deux compères m'ont regardé avec de gros yeux, donc je me suis arrêtée de parler au milieu d'une phrase. Voilà, c'est la magie du direct.
Tu pourrais le reprendre.
Hey, goutte, sur ma tête et je sens chaque goutte, qui te gringole de toi, j'écoute, si vient du courant d'air et je doute, que cela soit bon pour moi, je doute, que cela soit très bon, oui, je doute, mais au moins c'est ma maison. Ma maison, ma maison, ma maison, ma maison, ma maison, ma maison, ma maison. Ça grince, ça bricole et ça frotte, ça coince. Les fenêtres et les portes, ça trotte. Les bêtes de tout genre, ça crotte. Ça sent pas très bon, ça non, je frotte. Je nettoie mais rien à faire, je frotte. Mais au moins c'est ma maison. Ma maison, ma maison, ma maison. Maison, ma maison, ma maison, ma maison. Dommage qu'on doit se tasser, ça c'est dommage. La promiscuité sans le fromage. Je ne dis rien mais tout de même j'enrage. On se bouscule en ville, dommage. On se monte sur les pieds, c'est dommage. Mais au moins c'est ma maison. Ma maison, ma maison, ma maison. Maison, ma maison, ma maison, ma maison. Maison, ma maison, ma maison, ma maison. Maison, ma maison.
Ma maison par le groupe Oui Oui.
Ma maison, ma
extrait de leur premier album Chacun Tout le Monde. C'était en 89 et la batterie était assurée par Michel Gondry. C'était son premier clip. Enfin, il y en a qui disent c'était le deuxième. Tout. On s'en fiche. Vous écoutez Radio FMR, c'est l'émission CPU. Et donc, nous parlons de l'ère de Jarvis dans Killed by App avec Pia et Anthony qui, je les laisse s'écharper pour cette troisième tiers-temps.
Bah, du coup, on repart de la maison. On parlait à l'instant de dans ma maison de Oui Oui. Bon, bah, il y a un pendant dans la littérature ou plutôt dans les essais. C'est l'excellent bouquin de Mola Chollet, qui est journaliste au Monde diplomatique, qui s'appelle Chez soi, qui est une incroyable visite de tout ce que peut être le logis et la maison. On n'a pas eu le temps d'en parler tout à l'heure, mais elle a un propos vraiment très pertinent sur ce qu'on appelle aujourd'hui l'urbain diffus. Hein, c'est un concept qu'elle emprunte à un géographe et la manière dont on vit chez soi avec cette question philosophique qui est quand même assez pertinente, il me semble. Est-ce qu'on habite vraiment nos maisons ?
Bah c'est ça, parce qu'aujourd'hui, on peut se demander s'il pense du chez soi, c'est pas d'avoir son Wi-Fi quand on rentre, qui se met tout seul, sécurisé, stable, mieux qu'au Starbucks. Est-ce que c'est pas ça qui caractérise l'expérience du chez soi et non pas les pantoufles, le chien, comme dans Wallace et Gromit, ou que sais-je?
Mais finalement, c'est pas mal ton exemple des pantoufles, parce que ça montre que dans l'expérience de chez soi, il y a toujours des objets qui font l'interface, en fait. Et les montres connectées vont potentiellement aussi jouer un rôle là-dessus, enfin montre connectée et assistant corporel. Alors à cet égard, j'ai un petit exemple que j'ai envie de discuter avec vous. C'est un projet qui a gagné un prix au Core 77, qui est un concours de design, donc édition 2017. Et le projet s'appelait Good Food. Et donc l'idée, c'est que vous avez une application dans laquelle à chaque fois que vous achetez et consommez un aliment, eh bien, vous rentrez les caractéristiques de cet aliment et vous pouvez rentrer par ailleurs dans l'application vos préférences. Est-ce que vous avez envie de manger local, plutôt bio, de privilégier des circuits courts, vous êtes vegan, vous voulez respecter travailleurs, travailleuses, que sais-je. Et ensuite, à chaque fois que vous allez rentrer un aliment dans l'appli, on va vous dire, on va donner une note à cet aliment et on va vous dire à quel point il est idéal selon vos choix.
Bah, ça a l'air cool ton truc. C'est mieux qu'Amazon Ecolook.
Alors, sur le principe, c'est vrai que c'est pas mal, mais ce qui m'a vraiment arrêté quand j'ai regardé la tagline du projet, c'est la phrase, c'est une réflexion constante sur vous-même et sur vos choix. Et je me suis dit, mais c'est quand même terrible. On est sur des questions sociales, des questions d'alimentaire qui sont quand même des questions collectives. Et encore une fois, c'est complètement ramené à l'individu, à mon petit corps, mon petit poids, ma petite santé, mes petites vitamines. C'est quand même très problématique. D'où question, toujours question aussi politique. À quoi servent ces applications, sinon à lever la culpabilité des classes dominantes? Je suis dominant, je suis riche. Ah ouais, mais c'est ok.
Ah, je suis peut-être dedans, ouais. J'ai installé Fat Secret, qui est un peu une application similaire, qui peut permettre de mieux comprendre ce qu'on mange, les calories, les machins, qui te fait des stats comme ton compte en banque.
Ouais,
c'est pas mal.
Bah, disons qu'il y a quand même pas mal de gens aujourd'hui qui s'expriment là-dessus. Je sais que récemment, il y a eu un article sur la question de l'obésité qui doit être plus collective qu'individuelle. Moi, il me semble quand même qu'il y a des questionnements à cet endroit-là qui sont pertinents. Mais ce qu'on essaie de dire aussi là, en parlant de tout ça, c'est que c'est des questions de corps. Et que la question des habitats et des habitats connectés, elle doit se poser aussi à l'angle des corps.
Bah, il y a une continuité entre la maison et le corps, c'est clair. Et notamment dans les vêtements connectés ou les montres. En fait, la plateforme Android Wear, donc de Google, qui dépasse les montres, qui s'insère aussi dans les vêtements. Et donc David Singleton, qui est un peu en chef de toute cette gamme d'objets, nous dit que avec ses montres ou tous ses vêtements, l'idée c'est de tirer le maximum du temps de chaque seconde doit être utilisé ou servir à quelque chose.
C'est intéressant en termes de design parce que ça déplace complètement la question des fonctions et des vocations des objets. Ton exemple de montre, je le reprends, les montres ne doivent plus dire l'heure, mais aussi permettre une maîtrise accrue du temps. Et d'ailleurs, il y a tout un lexique du temps sur tous ces sites, même on parlait au début de l'émission de Deliveroo, c'est toujours instantanément, quoi. C'est avant même que le besoin soit là, l'objet a déjà rempli la fonction.
Bah, c'était très clair dans la dernière keynote d'Apple en juin 2017, hein, la partie montre, il y avait juste un pauvre personnage de Disney qui faisait le cadran. Bref, l'idée c'est vraiment sur les services, hein, d'accélérer les billets d'avion, les pizzas, la bouffe, etc., le snap, la disparition de tout labeur dans la performativité de l'objet toute puissante dans le wearables. Et on ne voit pas évidemment les tâches qu'on a derrière. Ça, c'est...
Bah là, du coup, c'est sur des paradigmes de, on va dire, l'assistant comme objet. Mais on avait parlé du chien et je trouve qu'il y a des choses à aller chercher aussi de ce côté-là. L'objet peut-être comme animal, t'avais des billes là-dessus ou
Ouais, c'est ça, mais alors peut-être pas de la façon dont... C'est pas l'assistant comme animal, c'est pire que ça. C'est le maître et le programme devient l'animal. Donc c'est dans l'article qui s'appelle « Demain, la fin du code ». Décidément, on aura cité beaucoup trop d'articles de Hubert Guillot dans cette émission, qui nous dit qu'avec le machine learning, donc l'apprentissage automatisé ou algorithmique, l'intelligence artificielle, bon... Peut-être que Xavier aura une émission là-dessus déjà faite. On programmera plus les ordinateurs, donc on ne va plus taper des lignes de code comme dans Wargames. Non, on va dresser les programmes et les algorithmes comme des chiens. Il n'y a plus de développeurs, on devient des dresseurs de code. Ça, c'est assez intéressant du coup.
Tu sais que tu fais ça chaque fois que tu remplis un CAPTCHA?
Exactement, le digital labor. On dresse Google.
Il y a un autre exemple de ça qui est intéressant. Alors, je cite beaucoup trop d'exemples de Core 77. C'est un autre projet qui a gagné un prix. Il s'appelle Objectifier. On avait déjà vu ça. Il y avait une artiste japonaise il y a quelques années qui avait un projet qui s'appelait OnObject, mais qui était d'ailleurs assez critique. Là, le projet Objectifier, c'est un petit terminal qu'on entraîne comme un chien. Et c'est dit comme ça, hein, dans le texte de défense. Hein. C'est pas moi qui le dis. Alors, ça se présente comme une espèce de petit terminal muet, comme absolument tous ces objets dont on parle depuis une heure. Et en fait, on apprend des gestes à une caméra. Donc, elle va reconnaître si on secoue les bras, elle va reconnaître si on saute en l'air. Elle peut aussi reconnaître des objets. Il y a un exemple avec une banane et une pomme. Donc, vous dressez votre terminal. Par exemple, quand j'ouvre ce livre, allume la lampe. Ou quand je pose une tasse à cet endroit, endroit démarre la bouilloire, où je me mets à danser soudainement dans mon appart et d'un seul coup la musique se déclenche. Moi je vois vraiment pas l'intérêt de ces choses-là. En fait, je me dis que finalement on passe par toute une couche applicative pour faire des choses qu'on faisait qu'un bouton. Alors il y a quand même questionnement sur les usages, quoi, vraiment.
Oui, c'est ça. Mais alors, toujours sur les corps, on a aussi cet exemple que j'aime bien, des toilettes connectées. Alors, c'est plus les Japonais qui sont là-dedans, mais peut-être on peut trouver ça en France. Les smart toilets. Donc, en gros, vous faites caca et cette super toilette analyse vos selles et vous dit si vous êtes en bonne santé, etc., par tout un traitement biologique, algorithmique. Donc, peut-être ça peut se connecter avec Good Food, hein, je sais pas, parce que ces objets-là, Pia, tu le rappelles souvent, fonctionnent en système, hein, ils sont pas à prendre comme des cas isolés, vous avez bien compris, l'enceinte, domino, etc.
C'est vachement flippant.
Voilà, vous avez acheté sur Uber Eats votre pizza et voilà, ouais. Votre pizza est analysée par la toilette.
C'est vachement flippant quand tu ouvres le matin la porte de ta salle de bain, que tu t'aperçois que ta toilette sort du mode de veille.
Ah, t'as ça chez toi en fait, mais je vais pas faire caca chez toi. Hein.
Ok, j'espère que les auditeurs et les auditrices ont bien noté ça. C'est quand même une information assez importante. Non, mais cela étant, on parle des toilettes, ça fait très pipi caca, mais moi, il me semble quand même que les toilettes sont au cœur d'enjeux politiques hyper importants. On l'a vu récemment avec les toilettes ban par Trump vis-à-vis des personnes trans aux États-Unis. Et il me semble d'ailleurs que ces toilettes, elles révèlent quelque chose d'un double jeu du quantified self. Alors, d'un côté, on a les riches qui se font surveiller pour être en pleine forme. Je fais pipi, je me fais analyser mon pipi pour voir si j'ai pas du diabète, par exemple. Et de l'autre côté, les pauvres se font surveiller dans les entrepôts Amazon pour ne pas aller faire pipi trop longtemps. Donc on retrouve comme ça des espèces de logiques. Alors la combinatoire n'est pas calculée, bien sûr. Il ne faut pas imaginer qu'il y a des espèces de têtes pensantes qui ont prévu tout ça. Mais il y a des choses qui font système là-dedans, en fait, et qui vont participer à creuser ce qu'on appelait des lignes de partage politique.
C'est le philosophe slovène Slavoj Žižek qui disait qu'il parlait de politique de la porcelaine. Et il disait en fait, vous êtes dans un colloque scientifique, universitaire, très sérieux, mais dès que vous allez aux toilettes, vous êtes en plein milieu de l'idéologie, quoi. Entre les toilettes dans les pays de l'Est ou dans les pays type États-Unis, c'est pas du tout la même chose. Et c'est incarné dans des objets très concrets, domestiques.
Voilà, question, je pense aussi, l'horizon, là, pour prendre un petit peu de hauteur sur tout ce qu'on a pu dire. Est-ce qu'on est encore dans le quantified self, ou est-ce que le quantified self ne m'aide pas automatiquement au quantified slave, quoi ? C'est le tableau politique un peu triste qui se dessine là quand on analyse tout ça.
Puis ces pauvres toilettes, en plus, le jour où les entreprises qui gèrent les datas ferment ou changent d'orientation, ça devient des briques. Alors les toilettes, je sais pas, mais en tout cas, c'est déjà le cas des thermostats domestiques, notamment Nest, entreprise rachetée par Google pour une petite fortune. Et donc Google a fermé peu de temps après le rachat les serveurs des premières gammes d'objets, ce qui a transformé donc ces thermostats domestiques en des véritables briques de plastique. Donc ce qui fait dire à un utilisateur que Google a intentionnellement briqué, je sais pas comment le dire autrement, les objets que cette pauvre personne possédait. Donc c'est devenu totalement inutile. Donc là, il y a directement un lien entre c'est évident, mais il faut quand même le dire, les objets connectés, l'obsolescence et même le hacking. Dans Mr. Robot, on hack, donc ça devient utile, mais finalement les plus gros hackers sont peut-être les entreprises qui produisent ces objets-là et qui les détruisent à distance.
Ça a été prévu de manière très lointaine par quelqu'un qui avait un peu tout prévu, Philippe Kadic, dans Ubik, qui avait déjà imaginé le bouton de porte qui demandait à l'usager de placer 5 cents dans la poignée pour pouvoir ouvrir la porte. Donc c'est pas une forme de hacking en soi, mais disons que tous ces dispositifs connectés vont rendre des formes de hacking possibles. Et un hacking ici, par exemple, je sais pas comment l'appeler, financier ou monétaire, c'est-à-dire d'un seul coup des services auxquels vous aviez accès gratuitement, soit vous n'y aurez plus accès parce que vous vous êtes fait briquer votre dispositif, soit vous y aurez accès, mais attention, il faut racheter un abonnement.
Ouais, c'est le ransomware, en fait, les objets, le balai va te demander de passer à la caisse pour le mettre à jour, sinon il voudra plus. Pareil pour l'appareil. Enfin, il y a une image célèbre qui circule beaucoup sur Twitter où chaque objet se plaint et demande des sous à son utilisateur, ça devient insupportable.
Mais c'est pour ça que quand Paola Antonelli nous dit que les objets, enfin un enjeu de communication du design aujourd'hui, c'est que les objets doivent apprendre à parler. Bon, après, elle est critique aussi, je la caricature un peu en le disant.
Moi, ouais, dirige le département design du MoMA.
Oui, c'est quelqu'un de super, mais disons que c'est. Voilà, les objets doivent apprendre à parler. Moi, j'ai envie de demander, est-ce que. Je sais pas, que mes objets me parlent. Moi, j'ai que les maisons soient bêtes, quoi.
Peut-être qu'ils se taisent, en fait. Laissez-nous tranquille.
Voilà, que les maisons soient stupides.
Ce serait notre conclusion, du coup, les dumb house. Et donc, le prochain épisode, Pia, si tu veux l'annoncer.
Algorithme du désir, Tinder, Grindr. Voilà, comment ne pas rencontrer la personne de votre vie.
Ouais, je crois que ça va être surtout très 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 attendu.
Sur les applications de rencontre, ça a parlé à tout le monde.
C'était CPU, le programme carré petit utile. Pour cette release, l'équipe était composée de The Screech, Chief Alfred Officer, Pierre Pandécalis, Chief Jarvis Officer, Anthony Mazur, Chief Nestor Officer.
Chief Bug Officer, The Screech.
La release a été shippée avec les moyens techniques de CPU et de Radio FMR. L'intégralité du programme, les extraits et les sources sont disponibles sur le site cpu.pm et tout est en Creative Commons, excepté les extraits musicaux et de films. Et puis vous pouvez commenter, partager, c'est fait absolument pour cela. Prochaine release, nous vous donnons rendez-vous normalement jeudi prochain à 11h. Et si vous nous écoutez sur Radio FMR Analogique, il est presque midi. Nous cédons le micro à Monique Blanquet pour son impromptu cultivé. Après les assistants vocaux, les assistants d'amour. Toi, t'as regardé mon CV, toi.
Ça va t'intéresser, ces applications.
Pourtant, je tente désespérément de faire une petite danse pour attirer ton attention, mais tu n'as Dieu que pour Anthony. Je capitule.
Désolé, ça doit être le poil. Bon, c'est où qu'on dit à cette maison, tais-toi, éteins-toi, éteins-toi, éteins-toi.